le livre du prophète Jérémie dans l'Ancien Testament. C'est un des plus gros livres. Il a moins de chapitres qu'Ésaïe, mais il est plus long, parce que les chapitres sont plus longs. On a vu la semaine dernière la génération de Jérémie, et ouf, génération très dure, très endormie, très peu intéressée aux choses de Dieu et leur âme et la foi. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Nous vivons dans une génération où ce que les gens sont satisfaits d'une superficialité de religion, mais vraiment pas se convertir réellement et vraiment pas le servir réellement. C'est semblable. Eh bien, dans quel contexte est-ce que Jérémie vivait? Bien sûr, en Israël, en Juda. Et c'était durant le temps du commencement de l'Empire babylonien. Là, l'Empire babylonien est à son maximum. Mais au début du livre de Jérémie, Juda était encore libre. Ils avaient encore leur roi. Et peu à peu, Babylone a grandi. Et Dieu avait averti à Israël, Israël était déjà plus là, le nord, mais Juda qui est resté dans le sud, Dieu les avertissait, repentez-vous, tournez-vous vers moi, et je vous garderai, mais autrement, il faut que je vous châtie, je vous envoie en exil, il faut que vous cessiez vos idolâtries, votre superficialité de religion, vos mensonges, vos méchancetés, etc. Et en fin de compte, donc, en 605, Jérusalem est prise une première fois, le roi est envoyé en exil, le roi, c'est Babylone qui commence à contrôler le roi. Daniel, vous vous rappelez de Daniel, le prophète? Daniel était un jeune homme en 605 et il avait été amené en exil. Mais ce n'était pas encore le temps d'être pris complètement. Dieu continue à utiliser Jérémie et quelques-uns d'autres pour prêcher le besoin de se repentir et de retourner vers Dieu. Et en fin de compte, en 586, la Babylone est rentrée a complètement détruit Jérusalem, détruit le temple, pris beaucoup d'exilés, tué beaucoup de personnes, laissé quelques pauvres dans les ruines, etc. En Juda. Et ils n'avaient pas encore l'Égypte. Et à ce moment-là, ceux qui restaient, ils ont dit, Jérémie, dis-nous ce que Dieu veut. Est-ce qu'on doit descendre en Égypte ou pas? Et Jérémie leur dit, Dieu ne veut pas que vous descendiez en Égypte. En Égypte. Et si vous descendez, Babylone va vous rejoindre en Égypte et détruire. Oh non, tu nous mens. C'est pas Dieu qui te dit de nous dire ça. Et en fin de compte, ils sont allés quand même en Égypte. Ils ont trouvé une manière ou une autre de faire ce qu'ils voulaient. Souvent, les gens, on peut dire, mais qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Et on a déjà notre idée de fait. Alors, on cherche dans la Bible pour voir si ce qu'on veut faire, Dieu va nous. Et quand on pense que, ah non, Dieu veut pas ce que. Bah, on se trouve une autre raison pour dire, non, non, Dieu ne dit pas ça. Et en fin de compte, j'en ai vu à travers le temps, les personnes qui m'ont demandé, pasteur, est-ce que Dieu est pour ça, pour ci, pour ça, est-ce que je devrais faire ci, ça? Et quand je leur donne la réponse, non, c'est pas dans la Bible, ça. Puis, ils font quand même ce qu'ils m'ont demandé. Donc là, Babylone a pris, Juda a pris l'Égypte, a contrôlé. Et là, on va retourner en arrière, on va commencer au début. Juste comprendre, donc, dans les 600 ans avant que Jésus-Christ revienne, 600 ans avant que Jésus-Christ vienne la première fois. 600 ans. Et donc, on est sous les rois Josias, Joachim, et il y a deux autres rois, mais ils ont régné seulement 3 mois. Joachim, et ensuite Sédécias. Et donc, on va retrouver ces noms-là, Joachim, Sédécias, on va retrouver Josias dans le livre de Jérémie. Et 605, c'est quand la première déportation, mais en fin de compte, destruction de Jérusalem, 586, sous Nebuchadnezzar. Vous vous rappelez peut-être du nom de Nebuchadnezzar, c'est le plus grand et le plus connu des rois babyloniens. Donc voilà, on va relire Jérémie chapitre 1 et voir l'appel de Jérémie, comment Dieu l'a appelé.
Jérémie chapitre 1, je lis. Parole de Jérémie, fils d'Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatote dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Donc voilà, vous voyez, il avait commencé à régner en 639 avant Jésus-Christ, et 13 ans après, Dieu a appelé Jérémie à commencer à partager la parole de Dieu. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias. Et donc Sédécias, qui a commencé à régner en 597, il a régné jusqu'en 586, quand Babylone est rentrée dans Jérusalem, et là ça a mis fin à la royauté en Juda. C'était fini. Il n'y a plus eu de roi en Israël et en Juda depuis 586. Mais il y a un roi. Il n'a juste pas commencé encore à régner. C'est Jésus. Jésus, le fils de David, il n'a juste pas encore commencé à régner formellement sur le royaume d'Israël, le royaume de Dieu, qui va être le royaume d'Israël qui va être rétabli. Et donc voilà, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je lui répondis: ah, Seigneur, Éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant, car je suis jeune. Il avait 17 à 25 ans, probablement une vingtaine d'années. Et ce n'est pas comme un enfant, mais au sens, hein, je suis jeune, je suis très jeune. Parler à la nation. Mais Dieu savait ce qu'il faisait, bien sûr. Dieu lui dit au verset 7, et l'Éternel me dit: ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha à ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. On va s'arrêter là, on va continuer à lire tout à l'heure, on va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, c'est la vérité. Merci que tu as envoyé tes prophètes parler à ta nation. Mais pas juste parler à ta nation, tu as voulu aussi que nous puissions apprendre aujourd'hui en 2026, Seigneur Dieu, tout ce qui concerne, Seigneur Dieu, tout ce qui concerne cette histoire, pour que nous en tirions application aussi à nos vies, parce que nous sommes tiraillés, nous sommes esclaves des mêmes péchés qu'Israël de ce temps-là. Et c'est toi qui appelles par la bouche de tes prophètes d'antan et par la bouche de ceux qui veulent bien proclamer ta parole aujourd'hui. Tu nous appelles encore à la repentance et à la foi, et ensuite à grandir en toi et à te servir dans un monde perverti et corrompu. Et Seigneur Dieu, donc merci pour ta parole qu'on peut lire ce matin et qu'on peut en tirer instruction. Et on te prie que tu puisses m'aider à bien exposer droitement le sens de ta parole, Seigneur Dieu. Parce qu'il y en a tant dans ce monde qui la tordent. Et Seigneur Dieu, donc on te prie que chacun puisse examiner, voir si les choses sont telles, Seigneur, de vraiment vérifier que je ne tords pas le sens des Écritures. On te prie au nom de Jésus. Amen. Jérémie, donc, Dieu l'a appelé pour donner sa parole. Dieu, il lui rappelle qu'il le connaissait depuis même avant qu'il a été formé. Il le connaissait même avant qu'il naisse, et il l'avait appelé même avant qu'il naisse. Mais est-ce que ça veut dire que Jérémie était un robot? Dieu l'a programmé, Jérémie. Et voilà, Jérémie qui... Non. Et on va tourner dans Jérémie chapitre 20, Parce que Jérémie nous parle un peu plus maintenant de... Maintenant qu'il a commencé à prêcher, maintenant qu'il a commencé à proclamer, là il voit que c'est pas facile. Mais Dieu lui a dit que ça serait pas facile. Il dit, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Autrement dit, Jérémie, proclamer ma parole ne va pas te rendre populaire. Tu ne vas pas être comme du miel avec des mouches autour de toi, là. Tu vas être comme une odeur de mort pour ceux qui périssent, mais une odeur de vie pour ceux qui vivent. Si on emprunte les paroles de 2 Corinthiens, Jérémie, la plupart vont te trouver puant parce que tu vas proclamer leur malheur, malheur à leur péché. Et vu qu'ils ne veulent pas se détourner de leur péché, ils ne vont pas t'aimer beaucoup. Ils ne vont pas t'aimer du tout. Donc, Jérémie, là, dans chapitre 20, là, il en a goûté des mauvais quarts d'heure. Il en a goûté la tristesse de se faire refuser. Et on va lire à partir du verset 7. Verset 7, là, Jérémie parle à Dieu. Il dit, tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. On se moque de moi. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle, peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de toi, nous tirons vengeance de toi. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste, il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Voilà, Jérémie expose son cœur. L'appel de Dieu, oui, il l'a accepté. Jérémie n'était pas un robot, il s'est laissé être persuadé. Et là, ensuite, quand il est tiraillé parce que il y a de l'opposition, il y a de la moquerie, la honte, il est tenté de dire, ben, je vais juste me taire. Non, il faut qu'ils entendent la parole de Dieu. Il faut qu'ils entendent la parole de Dieu. Il y a un feu dans son cœur qu'il fallait qu'ils entendent la parole de Dieu. Lui, il la connaissait, Dieu lui avait confié, il fallait qu'il l'entende. La parole de Dieu était comme un feu dans son cœur. Qu'est-ce qui a persuadé Jérémie? On va retourner dans le chapitre 1. Il dit, tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Peut-être est-ce le fait que Dieu le connaissait parfaitement, il savait, Dieu le connaît. Il le connaissait depuis qu'il était même avant d'être né. Dieu sait quand il était jeune, Dieu lui avait confié sa parole. Mais ensuite Dieu lui donne quelques raisons. Chapitre 1, on va lire à partir du verset 11. On va continuer à lire le chapitre 1 qu'on n'a pas encore complété. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Et donc, il lui montre quelque chose. Je répondis, je vois une branche d'amandier. Voyez-vous, l'amandier, c'était appelé l'arbre du réveil. L'amandier était un des premiers fruits à donner son fruit. Et Dieu, il fait le point. Dieu est éveillé pour veiller à bien exécuter sa parole. Il est fidèle. Sa parole est fidèle et la parole est éternelle. Alors, il lui dit, l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La branche de l'amandier, qui est un peu comme les brimises précoces, c'est la première chose. L'arbre du réveil qu'il était appelé. Et Dieu dit, je reste réveillé pour accomplir ma parole. Je ne vais pas m'endormir et faillir à la tâche. Je vais être alerte. Et quand c'est le temps, je vais appliquer ma parole. Elle va être exécutée. Est-ce que tu veux suivre une illusion? Veux-tu bâtir ta vie sur un château de sable qui, à la première vague, disparaît? Veux-tu te lancer dans ce qui est vain? Suis tes idées. Ou suis les idées de ce monde. Il y en a plein. Confucius, sorte de sage, entre guillemets, sorte de tradition. Il y en a plein, mais ce sont des illusions. Mais veux-tu bâtir ta vie sur ce qui va être permanent? Ce qui va demeurer? Ce qui va s'accomplir fidèlement? Dieu dit, hey, Jérémie, je donne ma parole à proclamer. Et ma parole, c'est de quoi certain, ça va s'accomplir. Tu ne dois pas investir ta vie dans ce qui est incertain. Lancez-vous donc aujourd'hui même, lançons-nous à croire et ensuite proclamer sa parole. Dieu veille pour l'exécuter. Dieu est patient. Parfois, on peut regarder une situation et dire... Ça ne me semble pas que ça s'accomplit. Il me semble que Dieu avertit ou Dieu promet, puis ça ne semble pas que ça s'accomplit. Attends, ça va se faire. Ça va se faire. Il y en a qui se réjouissent qu'ils arrivent à battre le système, puis tricher, ils arrivent à passer outre, puis ils sont contents. Et ensuite, quand ça vient tout se défaire, Dieu dit, construisez pas sur du sable. Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tiens, voilà proclamer. Là, je dis tiens, mais lui, c'était directement, parce que la Bible n'était pas encore finie d'écrire. D'ailleurs, Jérémie, il a écrit tout ce que Dieu lui a donné, et voilà que nous pouvons le lire. Donc, c'est pas Dieu qui lui a donné la Bible, mais pour nous, c'est tiens, prends la Bible, crois-la et proclame-la, vis-la. Pour continuer à lire, verset 13, il dit « La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu ?» J'ai répondu « Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. » Septentrion, c'est le nord. L'Occident, c'est l'ouest. L'Orient, c'est l'est. Et le midi, dans la Bible, midi, c'est le sud. Le septentrion. C'est le nord. Alors il dit, il bouille du côté du nord. Il bouille du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion, c'est du nord que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je fais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ses murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Hérin, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour, sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et oui, ils lui ont fait la guerre. Oui, ils l'ont mis dans les puits qui étaient asséchés, qui avaient de la boue pour le tuer. Ils ont fait beaucoup de tentatives, mais ils n'ont jamais réussi. Jérémie n'est pas mort de leurs mains. Dieu l'en a délivré. Alors voilà, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un pot bouillant. Et il bouille du nord. Maintenant, nous pouvons penser, Babylone est à l'est de Juda. Il n'allait pas venir de l'est, de l'Orient. Non. Là, c'est le désert. Là. C'est le désert. Apparemment, ils voyageaient à travers le désert. Là, ils voyageaient par là. Et ils arrivaient du nord. Mais c'est du nord que les armées de Babylone sont arrivées. Pour écraser Jérusalem, comme Dieu le dit. Maintenant, la parole de Dieu, c'est confronte le mal, expose le péché. Pourquoi dis-leur? Dis-leur que Dieu haït leur méchanceté, leur idolâtrie, leur abandon, leur infidélité. Dieu haït cela. Dieu haït le fait qu'ils brûlent leurs propres enfants à des idoles qui n'existent même pas, à l'ouvrage de leurs propres mains. Ils se créent les choses. Mais savez-vous pourquoi ils brûlaient leurs enfants? Parce qu'ils voulaient le désir de relation sans en avoir la responsabilité de ce qui en sort. Alors, tiens, aujourd'hui on connaît ça, c'est l'avortement. C'est la même chose, on tue un être vivant. Dieu haït ça. Dieu haït c'est cela. Il en parle dans d'autres places. Dieu haït la méchanceté, leur endurcissement. Et Dieu les avertit. Et il dit à Jérémie, tu vas proclamer ces choses-là et quand elle refuse de se repentir, ben voilà, il va avoir des conséquences. La parole de Dieu est plafateur en nous aujourd'hui en 2026. Le monde n'est pas meilleur et notre cœur n'est pas mieux. Notre cœur est toujours, comme Jérémie 17 va le dire un peu plus loin, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Ouh là. On ne doit pas dire, ah ben je regarde mon voisin. Ma voisine, je ne fais pas autant de mal que les autres. Dieu, non. Regardons à Dieu, à la sainteté de Dieu, qui dit, oh là, mon cœur est tortueux et méchant. Pour vraiment prendre à cœur sa parole. Et Jérémie devait proclamer le jugement. Dieu devait proclamer le fait que, oui, il allait avoir des soldats qui allaient rentrer, qui allaient couvrir les rues de sang, le sang de ce peuple avec qui il vivait. On a vu, jeudi soir, la violence et la Bible. La Bible, il y a des passages très, très violents. Et on a vu justement, un article. Je suis tombé dessus pour d'autres raisons, mais j'ai tombé sur cela et j'ai dit, tiens, il faut que j'adresse là. Ce sera un bon exemple d'un article qui semble parler pour Dieu, mais en fin de compte, ils enlèvent tout à Dieu. Parce que la violence dans la Bible, c'est comme si dans l'Ancien Testament, la Bible reflète ce que les gens comprenaient de Dieu. Mais non, Dieu, c'est lui qui a commandé au peuple d'Israël parfois de massacrer des peuples entiers. Mais Dieu le dit très clairement, c'était avec patience qu'il les a endurés pendant des siècles et que là, le temps du jugement était venu et qu'il allait se servir de son peuple pour amener un jugement. Dieu fait la différence entre la violence prémédité, le meurtre et l'exécution d'un meurtrier qui est une sentence. Et Dieu a apporté des exécutions. Et ce n'était pas avec gaieté, ce n'était pas avec hâte, c'était avec grande patience, mais il n'en demeure pas moins. Et l'article concluait quasiment que tout le monde un jour va recevoir ce pardon, parce que Dieu est comme cela. Non. Dieu a averti qu'il y aura une conséquence à le refuser de croire en lui, et le refuser de se détourner de ses péchés, le besoin de se repentir. Et Dieu qui offre le pardon à tous, avertit que large est le chemin qui mène à la perdition et étroit est le chemin de la vie. Ça, ce n'est pas parce que le chemin, il n'est accessible qu'à quelques-uns. Non, le chemin est accessible à tout le monde, mais c'est beaucoup qui ne veulent pas se repentir. Et Jérémie a dû proclamer la vengeance de Dieu. À moi la vengeance, dit Dieu. Dieu haït. De quel pire châtiment pensez-vous que sera coupable celui qui foule aux pieds le Fils de Dieu? Dans l'Ancien Testament aussi, autant que dans le Nouveau, la violence, entre guillemets, de Dieu, elle a une cause. Il haït le mal et il haït particulièrement quand on s'endurcit dans le mal et quand on refuse de s'en détourner. Dieu veut pardonner. Dieu ne désire pas qu'aucun périsse. C'est Jérémie, ça me surprend à lire Jérémie. Combien d'années, Dieu continue à dire, Jérémie, proclame-leur encore, parce que s'ils se repentent, je vais changer d'idée et ne pas envoyer les soldats babyloniens. Combien de fois il l'a répété? Jérémie, dit-leur encore, s'ils se repentent, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, s'ils reviennent à moi, je fais retourner les soldats babyloniens. Année après année, Jérémie le répétait. Ça rentrait par une oreille, ça sortait de l'autre, puis ça tombait à terre. Rien n'en faisait. Et Dieu dit, regarde, Jérémie, en fin de compte, tu vas proclamer la vengeance et le jugement un jour vont bel et bien arriver à la fin parce qu'ils auront refusé de se repentir. Alors, toutes les raisons sont là. Dieu veille à sa parole pour l'exécuter. Dieu aussi, pour ceux, et même si ce n'est pas nombreux, Dieu délivre ceux qui se confient en lui. Jérémie s'est confié en Dieu et Dieu l'a délivré. Dieu lui a fait connaître la victoire sur ses ennemis. Est-ce qu'on ne voudrait pas être du côté de la victoire? Jérémie, il s'est laissé persuader. Ce n'était pas automatique. Regardez, au chapitre 26, il y en a un autre qui prophétisait pour Dieu. Jérémie 26, verset 19. Verset 20. Jérémie 26, verset 20. Ça dit, il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shemaja, de Kirjath-Jéarim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que Jérémie. Le roi Joachim, tous ses vaillants hommes et tous ses chefs entendirent ses paroles et le roi cherchait à le faire mourir. Comme Jérémie. Et comme ils ont menacé Jérémie. Ils n'ont pas réussi. Mais ils ont cherché à faire mourir Jérémie, autant que cet homme, Uri. Mais Uri, malheureusement, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et il alla en Égypte. Le roi Joachim envoya des gens en Égypte, et Nathan, fils d'Akhor, et des gens avec lui en Égypte, ils firent sortir d'Égypte Uri et l'amenèrent au roi Joachim, qui le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Une histoire très triste. Mais je le relate un peu tôt, on va y arriver. Mais pour dire, Jérémie n'était pas d'une différente nature que cet homme-là. Et c'est pour ça que Dieu lui dit dans Jérémie 1, « Ne crains point !» Verset 8, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. » Verset 17, « Ne tremble pas à leur présence. » De peur que je ne te fasse trembler devant eux. Jérémie n'était pas un robot. Jérémie, on le lit, on le dit, ah, c'est un grand prophète. Puis tu l'as choisi même avant qu'il soit né. Ah ben, il est chanceux, lui. Non, ce n'est pas de la chance, entre guillemets, la chance. Non, Dieu est un Dieu souverain, mais il donne la responsabilité à l'homme de se soumettre à lui et de se confier en lui. Puis Dieu promet. Dieu promet victoire et Dieu promet délivrance. Et Jérémie, on le voit au chapitre 20, quand il est tiraillé. Oh là là, tu m'as persuadé, je me suis laissé persuader. Mais là, c'est la moquerie, c'est l'opposition, tout ça. Et là, je me suis dit, oh là là, il faut que je vais arrêter d'en parler. Mais Jérémie, il s'est dit, non, il faut qu'ils en entendent parler. Pourquoi? Parce qu'après tout, Dieu est le Dieu qui est vivant. L'Éternel des armées éprouve le juste, il pénètre les reins et les cœurs, je verrai ta vengeance exercée contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme de malheureux, de la main des méchants. Jérémie n'était pas obligé de répondre comme ça. Il n'était pas programmé. Il a choisi de dire, non, Dieu est un Dieu fidèle, il est digne qu'on se confie en lui, je me confie en lui. Je vais proclamer sa parole, c'est sa parole qui vaut la peine de proclamer. Dieu a eu le mal et c'est très bien qu'il a eu le mal. Il était une exception, il n'avait très peu. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que si vous vous convertissez, il n'y aura probablement pas la foule qui vous suit. Vous serez peut-être une ou deux personnes. Du volant, 10, 15, 20, 30, on prie qu'il y a assez de personnes qui se convertissent, que l'Église puisse être un jour indépendant, qu'il y aura son propre pasteur normal, moi je suis ici en tant que missionnaire, que là, ma femme et moi, on va continuer pour aller commencer une autre église ailleurs. On prie que ça grandisse, mais laissez-moi vous dire, c'est pas la popularité que je vous prêche. Peu importe le nombre de personnes qui continuent à faire le mal autour de vous, vous, personnellement, vous avez l'occasion de vous détourner vos péchés, de vous repentir, de croire et de vous confier en lui. Et si ça c'est déjà fait, ben, vous avez l'occasion maintenant, que tu, quand Dieu vous appelle à dire « Je veux te... » Que tu me serves, que ce soit à temps plein ou pas, ça, mais je veux que tu me serves, je veux que tu proclames ma parole, je veux que tu endures les moqueries, je veux que tu endures les épreuves, je veux que tu restes fidèle. Tu vas être tiraillé, mais ne tremble pas, ne les crains pas. C'est à nous aujourd'hui qu'il parle à travers ces paroles-là aussi, et il nous commande de se confier en lui, de dire ok, peu importe le coup. Ta parole vaut la peine que je le proclame, c'est la seule chose qui va endurer l'éternité, c'est sa parole qui va s'exécuter, et moi je veux être du côté de la victoire, je veux que les gens connaissent la parole de Dieu, et il est digne qu'on se confie en lui. Et laissez-moi vous dire, Hébreux 11 nous dit que la délivrance n'est pas toujours physique. Dieu a délivré autant que ceux qui ont accepté d'être martyrs, ceux qui ont été sciés en deux, qui ont été brûlés, etc., lapidés. Ça a dit dans Hébreux 11 que par la foi, ils n'ont pas pris une porte facile. La délivrance de Dieu, elle va venir, même pour les martyrs ou que ce soit pour ceux qui délivrent physiquement dans ce monde. Dieu a quelque chose de meilleur que juste une longue vie sur cette terre. C'est donc la délivrance, on doit le dire, c'est pas juste la délivrance de la mort physique. Jérémie finit par être mort. Mais dans son cas, Dieu a dit, je ne vais pas les laisser te tuer. Dans son cas, c'était spécifique pour la délivrance physique. Mais tout ça pour dire, peut-être que nous, on n'a pas cette promesse-là. Dieu ne nous promet pas nécessairement qu'on ne mourra pas pour notre foi. Comme il y en a qui sont morts pour leur foi. Dans Hébreux 11, il récite tous ceux qui ont accepté d'être fidèles à Dieu, même au prix de leur vie. Ça vaut la peine de servir Dieu, même si on en paye de notre vie. Parce que Dieu est un Dieu qui... est fidèle à sa parole, est fidèle à ceux qui se confient en lui, à ceux qui veulent bien dire, ok, je sais que c'est pas populaire, mais Dieu veut que je continue à proclamer que Dieu haït le péché, que Dieu appelle les gens à la repentance et à la foi en Jésus, et je continue à le faire. Qu'en est-il de vous? Vous n'êtes pas plus un robot que Jérémie. Et la parole de Dieu, elle vient à vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que Dieu vous appelle à la repentance et à la foi parce que vous ne vous êtes pas encore repenti et cru vraiment au sens biblique? Ah, laissez pas la parole tomber à terre. Acceptez-la. Est-ce que la parole de Dieu vient à vous qui avez déjà accepté Jésus comme votre sauveur? La parole de Dieu est là pour vous dire, hey, proclame-la la parole, vis-la, ne tremble pas, sois fidèle. Je peux vous dire, il vaut la peine d'être comme Isaïe, Seigneur, quand Dieu dit « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» dire comme Isaïe, « Seigneur, envoie-moi. » Ça devrait être, pour ceux qui connaissent Jésus comme sauveur, le cri de notre cœur de Dieu de dire « Dieu, je veux faire ta volonté et j'aimerais tellement que tu m'envoies pour œuvrer dans ta parole à temps plein, que ce soit comme missionnaire ou comme pasteur ou comme femme de pasteur. Ou... J'aimerais être à temps plein dans le ministère. » Ah, de la parole de Dieu. Ah, ça c'est un bon désir. C'est pas nécessairement que Dieu appelle tous ceux qui ont le désir, mais ça serait bien d'avoir ce désir-là, comme il dit dans 2 Timothée 3. Pour Jérémie, l'appel formel est venu et il l'a accepté. Si Dieu vous appelle, est-ce que vous aimerez qu'il vous appelle? Et si Dieu vous appelle, est-ce que vous allez accepter? On va prier. Seigneur Dieu, merci pour l'appel de Jérémie, le début de son ministère. Seigneur Dieu, tu en donnes la nature. C'est pas, tu ne l'as pas appelé à être populaire, tu l'as appelé à donner ta parole. Et à ne pas craindre, Seigneur, ceux qui refusaient de se repentir et ceux qui allaient continuer dans leur méchanceté et leur opposition à Dieu. Même il y en a beaucoup qui le faisaient avec un sens religieux. Mais Seigneur Dieu, Jérémie a accepté de se confier en toi, il a accepté de t'obéir, il a accepté de donner ta parole. Et Seigneur Dieu, on te prie qu'aujourd'hui nous-mêmes, on puisse recevoir la parole de Dieu, Seigneur. Pour ceux pour qui ça vient, pour dire « Repends-toi et crois en Jésus », je te prie, Seigneur, que ceux qui ne sont pas encore sauvés puissent recevoir cette parole et vraiment se repentir et croire et accepter, Seigneur Dieu, la réconciliation, accepter le pardon en Jésus-Christ, accepter, Seigneur Dieu. Ensuite, de pouvoir grandir en toi et de vive pour ta parole, on te prie que ceux qui t'ont déjà accepté, Seigneur Dieu, ou on professe au moins le faire, on te prie qu'ils puissent vraiment prendre ta parole et avoir ce feu dans leur cœur de ta parole, dans la conviction que c'est ta parole qui est la vérité, c'est ta parole que les gens ont besoin d'entendre, même si elle n'est pas populaire, c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre parce que tu es digne de foi. Oh Seigneur Dieu, qu'on te prie que tu puisses réveiller nos cœurs et que tu puisses aussi en appeler plus à ton ministère. Seigneur Dieu, appelle les ouvriers. Seigneur Dieu, les champs blanchissent en attendant. Seigneur, on te prie que tu puisses envoyer plus d'ouvriers et que même d'ici, de cette église, on puisse envoyer des missionnaires, Seigneur Dieu, au loin, dans des places qui n'ont pas encore quelqu'un pour parler de Jésus. Seigneur Dieu, on te supplie que tu puisses en susciter, Seigneur Dieu, d'ici. On te supplie au nom de Jésus.